Dostoïevski, Les Nuits Blanches. Nuit première. C'était une nuit de conte, amis lecteurs, une de ces nuits qui ne peuvent guère survenir que dans notre jeunesse. Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair, que lorsque vous leviez les yeux vers lui, vous ne pouviez sans même le vouloir que vous demander « Est-il possible que sous un ciel pareil vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux ?» Cela aussi, c'est une question bien jeune, ami lecteur, mais puisse Dieu vous l'inspirer le plus souvent possible. Parlant de messieurs méchants et capricieux, je ne pouvais pas ne pas penser non plus à ma conduite exemplaire durant toute la journée. Dès le matin, je m'étais senti rongée par une sorte de trouble surprenant. Il me sembla soudain que moi, le solitaire, ils m'abandonnaient tous, oui, tous se détournaient de moi. Ici, certes, chacun est en droit de poser une question. Qui sont-ils donc, ces tous ? Parce que voici 8 ans que j'habite à Pétersbourg et que je n'ai su m'y faire presque aucune relation. Mais qu'ai-je à faire des relations ? Je connais déjà tout Pétersbourg. Voilà pourquoi j'ai eu l'impression qu'ils m'abandonnaient tous quand Pétersbourg, comme un seul homme, se leva tout entier pour gagner brusquement ses maisons de campagne. Je fus pris de frayeur à l'idée de rester seul et j'errai dans la ville, 3 jours durant, dans un trouble profond, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait. Allais-je sur le Nevski ? Allais-je au jardin ? Errais-je le long des quais ? Aucun de ces visages que j'avais coutume de retrouver au même endroit, à telle heure, toute l'année. Ils ne me connaissent pas, bien sûr, mais moi je les connais. Je les connais de près. J'ai presque fait l'étude de leurs expressions. Je les admire quand ils sont gais, je me sens triste quand ils s'embrument. Je suis devenue presque un ami du petit vieux que je rencontre chaque jour que Dieu fait, à une heure précise, sur la Fontanka. Une expression fort grave, méditative. Il grommelle toujours dans sa barbe et agite le bras gauche, tout en tenant dans la main droite une longue canne noueuse à pommeau doré. Même il m'a remarqué, et je crois que nos âmes se répondent. Si par exemple je ne venais pas, à l'heure précise, à cet endroit de la Fontanka, je suis persuadée qu'il se sentirait triste. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous nous faisions un signe de la tête, surtout lorsque nous sommes de bonne humeur. Tout à l'heure, cela faisait 2 jours que nous ne nous étions pas vus. Nous nous retrouvions au 3e. Nous avions déjà même voulu saisir nos chapeaux, mais nous nous sommes réveillés à temps, avons baissé le bras et sommes passés l'un près de l'autre avec compréhension. Je connais même les maisons. Durant mes promenades, chacune semble courir au-devant de moi. Elle me regarde de toutes ses fenêtres et me dit presque « Bonjour, monsieur, comment vous portez-vous » « Moi aussi, Dieu merci, ça va. À part qu'en mai, on m'ajoute un étage. » Ou bien « Comment vous portez-vous ? Moi, demain, on me met en travaux. » Ou bien « J'ai failli brûler. Quelle peur je me suis faite !» Etc. J'ai parmi elles mes préférées, des camarades proches. L'une d'elles a l'intention de faire une cure cet été auprès d'un architecte. Je passerai la voir exprès chaque jour pour que le remède ne soit pas pire que le mal, Dieu l'en préserve. Mais jamais je n'oublierai l'histoire de cette maison toute petite, toute mignonne, rose claire. C'était une maison de pierre tellement jolie. Elle me regardait avec tant de gentillesse et regardait avec tant de fierté ses pataudes voisines que j'avais le cœur en fête quand il m'arrivait de passer devant elle. Soudain, la semaine dernière, j'emprunte cette rue, je regarde mon ami et j'entends son cri de désespoir. « Il me repeigne en jaune !»« Monstre, vandale !» Ils n'eurent pitié de rien, ni des colonnes, ni des corniches. et mon amie devint toute jaune, jaune comme un canari. Je me sentis presque inondée de bile à ce moment. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la force d'aller revoir ma malheureuse défigurée, repeinte aux couleurs de l'Empire du Milieu. Vous comprenez ainsi, lecteur, de quelle façon je connais toute la ville de Pétersbourg. J'ai déjà dit que l'inquiétude m'avait rongée durant 3 jours entiers avant que je parvienne à en trouver la cause. Je sentais un malaise dans la rue. Celui-là n'est pas là, celui-ci non plus. Où est passé tel autre? Et même chez moi, je me sentais tout chose. Pendant 2 jours, j'ai tenté de comprendre. Que me manquait-il donc dans mon recoin? Pourquoi avais-je tant de mal à y rester? Et avec stupéfaction, j'examinais les murs verts, couverts de suie, mon plafond orné de toiles d'araignée que Matryona faisait croître avec un grand succès. Je passais tous mes meubles en revue. J'examinais chaque chaise, me demandant si le malheur ne venait pas de là. Car si ne serait-ce qu'une chaise est déplacée chez moi, je ne sais plus ce que je deviens. Je regardais par la fenêtre, toujours en vain, aucun soulagement. J'eus même l'idée d'appeler Matryona pour lui faire des reproches au sujet des toiles d'araignée et, en général, de son manque de soin. Mais elle se contenta de me regarder d'un air surpris et s'en alla, sans me répondre un mot, si bien que la toile d'araignée trône toujours tranquillement à sa place. Ce n'est donc que ce matin que j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Mais oui, ils m'abandonnent tous. Ils filent au vert. Pardonnez-moi cette expression triviale, j'ai d'autres soucis que le beau style. C'est que tout Pétersbourg était soit déjà parti, soit en train de partir à la campagne. C'est que chacun de ces braves messieurs à l'allure grave, arrêtant un cocher devant mes yeux, se transformait immédiatement en brave père de famille, lequel, ses obligations de service accomplies, se rendait sans plus de cérémonie dans les tréfonds de sa famille, dans sa datcha. C'est que chaque passant avait dorénavant une allure spéciale et qu'il s'en fallait de peu que cette allure ne dît à chaque personne rencontrée « Nous ne faisons que passer, messieurs. Nous partons dans 2 heures pour la datcha. » Une fenêtre sur laquelle avaient tambouriné de petits doigts fins et blancs comme du sucre s'ouvrait-elle. La tête d'une jolie jeune fille se montrait-elle, appelant un marchand qui transportait des pots de fleurs. Il me semblait tout de suite que ces fleurs étaient achetées non pour se réjouir du printemps et des fleurs dans la touffeur d'un appartement de la ville, mais parce que les jeunes gens allaient bientôt partir et emporter ces fleurs dans leurs bagages. Bien plus, j'avais déjà fait de tels progrès dans ce genre nouveau et personnel de découverte que je pouvais dire, sans risque de me tromper, rien qu'à l'aspect qui s'installait dans quelle datcha. Les habitants des îles Kameni ou Aptekarski, ou ceux de la route de Peterhof, se distinguaient par l'élégance étudiée de leurs manières, leurs costumes d'été à la dernière mode et les splendides équipages qu'ils avaient pris pour se rendre en ville. Les habitants de Pargolovo et ceux d'un peu plus loin en imposaient au premier coup d'œil par leur maintien et par leur dignité. Le visiteur de l'île, Krestovski, se distinguait par son air invariablement gai. Avais-je de la chance de rencontrer une longue procession de tombereaux, leurs cochers avançant, tout doux, rênes en main à côté de leur équipage, chargés de véritables montagnes de toutes sortes de meubles, tables, chaises, divans turcs et non turcs, et autres fatras domestiques que venaient bien souvent couronner en supplément gratuit, assises sur le plus haut sommet du tombereau, une maigre cuisinière veillant sur le bien de ses maîtres comme sur la prunelle de ses propres yeux. Regardais-je les barques lourdement chargées de tout un fouillis familial glisser le long de la Neva, ou de la Fontanka vers la rivière noire ou vers les îles. Les barques et les tombereaux se multipliaient par 10, par 100 devant mes yeux. Il me semblait que tout s'était levé, tout s'était mis en branle, que tout se transportait par caravane dans les datchas. Il me semblait que Pétersbourg menaçait de se transformer tout entier en désert, si bien que je finis par me sentir humilié, offensé, malheureux. Moi, je n'avais nulle part, vraiment, où partir à la campagne et aucune raison d'y aller. J'étais prête à partir avec chaque tombereau, à suivre chaque monsieur d'apparence grave qui louait un cocher, mais pas un seul, non, pas un seul ne m'invitait. C'était comme si on m'avait oublié, comme si, vraiment, j'étais pour eux un étranger. Je marchais beaucoup, longtemps, si bien que, selon ma coutume, j'avais complètement oublié où j'étais quand je me retrouvais soudain dans les faubourgs. En un instant, je sentis la joie qui m'inondait. Je fis un pas par-delà la barrière, marchai par les champs labourés et les prairies, oubliant la fatigue, mais ressentant dans tout mon être qu'un poids tombait de sur mon âme. Tous les passants me regardaient avec tant de bienveillance, tout juste, réellement, s'ils ne me saluaient pas. Ils étaient heureux d'on ne savait quoi. Ils fumaient tous, du premier au dernier, des cigares. Moi aussi j'étais heureux, comme jamais de ma vie. À croire que brutalement, je m'étais retrouvée en Italie. Si grande avait été l'action de la nature sur un citadin maladif, à demi asphyxié dans les murs de la ville. Il est on ne sait quoi d'indiciblement touchant dans notre nature de Pétersbourg, quand, au début du printemps, elle affirme soudain sa puissance, toutes ces forces que lui donne le ciel, se couvre de duvet, se pare, se bariole de fleurs. C'est comme, sans le vouloir, qu'elle me rappelle la jeune fille, maladive et fanée, que vous observez parfois avec regret, parfois avec une sorte d'amour compassionnel, ou que parfois vous ne remarquez même pas, et qui soudain, en un instant, comme sans faire exprès, se montre belle, mais indiciblement, merveilleusement belle. Et vous, sidérée, éblouie, vous vous demandez sans le vouloir, quelle force fait briller d'un tel feu ces yeux méditatifs et tristes ? D'où vient le sang qui irrigue ses joues pâles et creusées ? Qu'est-ce qui inonde de passion les tendres traits de ce visage ? Pourquoi cette poitrine se soulève-t-elle ainsi ? Qu'est-ce donc qui a soudain suscité cette force, cette vie, cette beauté dans le visage de cette jeune fille ? Qu'est-ce qui l'a fait briller de ce sourire, se vivifier d'un rire aussi éblouissant, étincelant ? Vous regardez autour, vous cherchez quelqu'un, vous devinez. Mais l'instant passe, et dès demain peut-être, vous retrouverez une fois encore le même regard pensif, absent, le même visage pâle, la même soumission, la même gêne dans les mouvements, voire du remords, les traces d'on ne sait quelle angoisse mortelle, d'agacement de s'être abandonné à sa passion fugace. Et vous, vous regrettez que sa fugitive beauté se soit si vite et sans retour fanée. Quel est lui, devant vous, d'une manière si vaine, si trompeuse. Vous regrettez de ne pas même avoir eu le temps de l'aimer. Et néanmoins, ma nuit fut plus belle que le jour. Voici pourquoi.